Alors, sans plus attendre, je passe la parole à ma camarade Claire Rocher.
Chers amis, chers camarades, avant l'intervention de notre porte-parole Nathalie Arthaud, je voudrais vous parler de la pandémie et comment nous l'avons vécue à l'hôpital de Dijon durant cette année de crise sanitaire où j'ai moi-même été envoyée en renfort en tant qu'infirmière dans une réanimation Covid. L'arrivée de la première vague de l'épidémie en mars 2020 a bouleversé tout le fonctionnement de l'hôpital. Nous avons basculé de notre quotidien bien cadré, fait de protocoles, de procédures, de routines, dans une situation de catastrophe où tout à coup il a fallu tout inventer. En quelques jours, avant que les malades déboulent, il a fallu tout déménager, libérer des réserves de matériel, aménager des chambres, agrandir les réanimations. On a demandé en urgence et partout des volontaires pour renforcer les services qui accueillaient les patients Covid, et en particulier les réanimations, et il a fallu faire face à des patients dont les symptômes s'aggravaient rapidement. On s'est aperçu qu'il manquait des respirateurs, des drogues pour endormir les malades, mais plus que de dispositifs techniques, on a manqué de choses élémentaires, des masques d'abord, et des blouses qu'on a fini par faire coudre par des bénévoles, des tabliers en plastique, toutes ces choses indispensable, qui ne coûte pratiquement rien, mais qui était négligeable, pas assez technique, pas assez moderne pour les investisseurs de l'hôpital. Tout le personnel et même les médecins ne savaient que très peu de choses du virus, des soins qui allaient être nécessaires, des moyens de ne pas se contaminer ou le propager. Et tout le monde à l'hôpital a dû changer de métier, de service, de collègues, du jour au lendemain. Parce qu'il devenait nécessaire que tout le monde s'y mette. Alors bien sûr, ça faisait des années qu'on dénonçait le manque de lits, de personnel, et le fait que la moindre épidémie serait une catastrophe. Mais entre le dire et le vivre, il y a un monde, et finalement on est surpris. Ce n'est pas simplement « on vous l'avait bien dit », c'est bien au-delà. Et surtout, la situation ne prend jamais exactement l'aspect auquel on s'attendait. Mais ce qui est évident, c'est qu'il nous a manqué l'essentiel, des lits et du personnel qualifié pour pouvoir faire face à la fois au Covid et à tout le reste, les opérations, les cancers, les maladies chroniques. On n'a pas pu tout faire et c'est ce qui a eu des conséquences dramatiques et ça continue. Une image frappante, ça a été de voir nos blocs opératoires hyper moderne, équipé de techniques médicales de pointe, de robots chirurgiens, de scanners avec intelligence artificielle embarquée, mis à l'arrêt, désert, plongé dans le noir, silencieux, parce que leur personnel était réquisitionné en réanimation. La plupart des opérations chirurgicales ont été annulées. Des milliers de gens ont vu leurs opérations repoussées faute de personnel. Alors que la technique, le matériel, tout ça, on l'avait et qu'on aurait pu les soigner si seulement on avait été plus nombreux. Parce que tout cela ne sert à rien s'il n'y a pas suffisamment de gens formés pour le mettre en œuvre. Et c'est précisément ce que le fonctionnement actuel des hôpitaux ne prend pas en compte. Rien ne nous avait préparé à ça et on a vraiment vécu une catastrophe. Tous les cadres habituels ont volé en éclats, toutes les choses qu'on pensait acquises. C'était comme une situation de guerre par moment. On a eu des moments poignants, on a été au front. Et même si ça n'a pas pris exactement l'allure que connaissent des pays en guerre, ou même des pays pauvres comme l'Inde, où les gens meurent comme des mouches devant les hôpitaux parce qu'il n'y a même plus d'oxygène, on a été confrontés à des moments très durs. On a accueilli en réanimation nos propres collègues malades, des malades qui arrivaient en urgence, à qui on avait à peine le temps d'expliquer qu'il fallait les endormir. On a eu des familles dont les deux parents étaient hospitalisés et ont fini par mourir contaminés par leur fille unique, des maris qui apprenaient le décès de leur femme juste avant d'être placés sous ventilation artificielle et à qui il fallait à nouveau l'annoncer à leur réveil. Et surtout, on voyait les malades arriver, les lits se remplir, et on ne savait pas du tout s'il y en aurait assez, même pour les seuls patients Covid. Et ce qui est le plus frappant, c'est que les soignants et l'ensemble du personnel de l'hôpital ont accompli dans cette situation de catastrophe sanitaire. Dans les services qui ont accueilli les malades Covid, il a fallu trouver un fonctionnement, apprendre les bons gestes, rien que pour enfiler nos tenues, former une équipe avec des collègues venus de tout l'hôpital, se former en quelques heures, s'organiser, et finalement ce sont les soignants qui ont permis tant bien que mal que les choses trouvent un nouvel équilibre et que la catastrophe ne soit pas pire. Vaille que vaille, le personnel médical a trouvé des solutions pour fonctionner, pour réaménager les locaux, pour trouver de la place pour des réserves, pour organiser le travail, pour se former, pour utiliser tous les bras rendus disponibles par l'arrêt des autres activités. On a formé des étudiants à faire les aides-soignantes, des orthopédistes à nous aider à retourner nos malades sur le ventre, des professeurs ont accueilli les familles des malades pour leur permettre de venir en visite. On a trouvé comment être les plus efficaces possibles, comment économiser les masques, les blouses, tout en restant en sécurité. Ce sont les soignants, des ASH aux médecins, des kinés aux soignants, des brancardiers aux infirmières, qui ont dû réinventer complètement le fonctionnement des services. Nous sommes un certain nombre de collègues, aides-soignants, ASH, infirmiers, à avoir été en renfort dans les réanimations. Et ce qui est extrêmement étonnant et en même temps rassurant, c'est que la plupart de ceux qui étaient allés pour affronter la première vague il y a un an ont accepté de revenir à la deuxième à l'automne et ont quasiment enchaîné avec cette troisième dont nous sortons peut-être tout juste. C'était avec un état d'esprit différent, peut-être plus désabusé à chaque fois. Nous nous sommes retrouvés à chaque vague en nous disant « c'est reparti, nous y revoilà ». Mais au moins, à partir de la deuxième vague, on se disait « maintenant, on sait à quoi s'attendre », ce qui n'était évidemment pas le cas en mars 2020. Et ce qui est impressionnant dans ce genre de situation où on intervient, où on est actif, où on se bat, c'est qu'il y a malgré cela des moments de désespoir collectif, où on se regarde en se disant c'est peine perdue, on n'y arrivera pas, on va tous mourir sur place là et ça aura servi à rien. On en a eu quelques-uns, mais on est aussi toujours revenu le lendemain. J'ai rejoint les idées révolutionnaires quand j'étais toute jeune et depuis tout ce temps, ma plus profonde conviction, voire mon catéchisme, ça a toujours été qu'il fallait faire confiance aux travailleurs, qu'ils avaient la capacité d'être responsables et d'organiser la société à la place de la bourgeoisie. Mais dans les faits, ça restait un peu une idée abstraite, parce qu'on vit dans une société où tout nous vient d'en haut, de l'école à l'usine. Et il y a toujours au-dessus de nous ceux qui sont déjà en place pour nous gouverner. Eh bien, cette année de crise sanitaire m'a fait repenser à une phrase de Lénine qui, en septembre 17, juste avant la révolution d'octobre, parlait de la forme que prendrait le pouvoir des travailleurs en disant « chaque cuisinière doit apprendre à gouverner l'État ». Dans cette catastrophe sanitaire où les cadres habituels avaient volé en éclats, j'ai découvert des trésors d'intelligence pratique, d'initiative, de dévouement. Et ça m'a fait comprendre réellement ce que ça veut dire quand les gens prennent les choses en main. C'est toute la différence entre avoir une confiance de principe dans les êtres humains et le vivre au jour le jour dans une période de crise comme celle que vient de traverser l'hôpital. On découvre alors que chacun de nous possède en lui des trésors d'inventivité et d'abnégation. Et je suis aujourd'hui plus que jamais convaincue que nous avons vocation à diriger la société.